Bonjour et bienvenue sur France Inter, nous sommes le mercredi 1er septembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, plus d'un million de personnels de l'éducation nationale font leur rentrée aujourd'hui avant les élèves. Demain, parole de prof dans un instant après les autres titres, Anaïs.
Emmanuel Macron à Marseille pour 3 jours avec l'ambition de redonner un nouveau souffle à une ville aux écoles vétustes, aux transports en commun insuffisants. En Afghanistan, les talibans seuls pour gouverner, mais avec qui ? Et puis la surprise du mercato de football, Antoine Griezmann quitte le Barça pour retrouver l'Atlético Madrid.
Et en cette veille de rentrée des classes, les invités de France Inter, justement, à 7h50, Léa Salamé.
Un abécédaire républicain réalisé par une classe de CM1, CM2 en Alsace pour expliquer ce que c'est que la démocratie, la laïcité, la fraternité aux enfants. C'est le projet formidable mené par une enseignante sous le patronage de Robert Badinter et ils seront tous les deux nos invités à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, qui répondra évidemment à vos questions. Le standard vous attend, il est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter. Après l'insouciance des vacances, deuxième rentrée scolaire sur fond de crise sanitaire. 1 200 000 personnels font leur pré-rentrée aujourd'hui, parmi eux 869 000 professeurs. On parlera sans doute avec les collègues masques, vaccination et protocoles sanitaires. Mais ce qui est immuable, c'est l'excitation de retrouver les élèves demain. Cécile Chabot est professeure de français en collège. Elle vient de publier « Tu fais quoi dans la vie, prof ?» Elle raconte à Sonia Princey ce moment fort de la pré-rentrée.
C'est sa 23e rentrée scolaire et Cécile Chabot est toujours aussi impatiente de revoir ses collègues, exactement comme lorsque les élèves retrouvent leurs copains.
On est comme des enfants, on regarde les listes d'élèves, on regarde nos emplois du temps, on est content, on n'est pas content. Si on n'est pas content, on essaie d'aller voir le principal pour qu'elle change. On essaie de s'arranger avec les autres profs pour voir si on peut pas faire des changements, ça marche pas, on s'engueule. Bon bah voilà, on est des gosses, hein. Je crois qu'on est des gosses.
Après ces longues tractations, les enseignants préparent la vraie rentrée, celle des élèves. Et attention, il faut savoir que les collégiens testent toujours leur professeur le premier jour. Cécile Chabot se souvient encore de sa première année.
Je m'étais mise en robe, j'avais une espèce de robe tubulaire, j'avais mes docs et bon, bah, ils m'ont pas loupé. Hein. Donc ils ont commencé à faire n'importe quoi, se sont moqués de mes chaussures, de ma robe. Bon, et il a fallu très vite trouver la façon de gérer la crise. J'ai eu la chance que l'élève qui m'est tombé dessus avait sa braguette ouverte, donc j'ai pu par une joute verbale bien appropriée le remettre à sa place. Bon, ça a marché.
Même après plus de 20 ans, l'enseignante reconnaît qu'elle ressent toujours une petite appréhension qui fait aussi le charme de la rentrée.
Et rentrée demain pour les élèves, plus de 12 millions avec une épidémie qui se stabilise dans l'Hexagone. Des contaminations en baisse depuis mi-août. Les courbes des nouvelles admissions à l'hôpital est en train de s'inverser. Mais c'est trop tôt pour affirmer qu'on en a fini avec la 4e vague, nous dit Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du conseil scientifique.
Il y a des signes de stabilisation, voire d'amélioration de la situation épidémique. On se rend compte que le nombre de cas est redescendu autour de 20 000 cas par jour. On est en fait un état d'équilibre. Cet état d'équilibre bon, est satisfaisant. Ce serait bien qu'on descende quand même, parce que 1 000 hospitalisations par jour, c'est pas négligeable. Et les jours, semaines qui viennent vont être assez déterminantes. Il va y avoir quand même des éléments perturbateurs. On s'attend à ce que la rentrée scolaire, universitaire, professionnelle puisse rompre cet équilibre. Ce qu'on comprend maintenant, finalement, c'est que on est dans une situation où il est plus facile de répondre à des poussées épidémiques sans être obligé d'aller vers des mesures aussi dures que celles qu'on a connues dans le passé, comme les couvre-feux ou les confinements.
Arnaud Fontanet avec Hélène Chevalier. Passe sanitaire, fermeture de classe. 7 questions sur une rentrée atypique, c'est sur franceinter.fr. Et à 8h20, le ministre de l'Éducation nationale.
Il est 7h04, Anaïs, la visite commencera par le Vieux-Port.
Marseille, bien sûr, on y parlera. École aussi, Emmanuel Macron attendu cet après-midi dans la deuxième ville de France, un peu comme le grand argentier de l'État et ses centaines de millions d'euros au service de la cité phocéenne. Pendant ces 3 jours de visite, le président de la République embrasse large, logement, transport, sécurité et rénovation des écoles. Certaines installées dans des préfabriqués vieux de 17 ans où courent des rats et où les toits s'effondrent. Alors sur place, Clémence Gourdon-Négrini, on attend l'État et la municipalité.
Les autorités publiques ont un retard de 10 ans à rattraper, selon Séverine Gilles, présidente du mouvement des parents d'élèves de Marseille.
Des enfants de 2 ans sont accueillis dans des écoles où il fait froid l'hiver, où il fait trop chaud l'été, parce qu'il n'y a pas de préau, il n'y a pas d'ombre, il y a des problèmes d'amiante.
Engagée depuis 16 ans pour offrir une scolarité plus digne aux petits Marseillais, cette mère de famille veut y croire, à condition de voir arriver Emmanuel Macron avec un plan contraignant sur la durée.
Qu'on ne nous dise pas « on vous donne tant cette année » et qu'on s'en aille comme ça, quel que soit le président de la République, quelle que soit la mairie à Marseille, que nous, Marseillais, on ait nos écoles qui soient rénovées sur 10, 15, 20 ans à venir et qu'on n'en parle plus de ce sujet-là.
Mais les associations ne sont pas dupes du calendrier politique. Julien Houlès, membre du collectif des écoles de Marseille.
Il aurait pu annoncer, dès son début de mandat, 1 milliard d'euros pour sauver les écoles de Marseille. Là, il se trouve que c'est à 7 mois des présidentielles. Donc, bon, si cet argent est bien alloué aux écoles, eh bien tant mieux, hein, nous prenons.
Plus confiant, l'actuel maire, Benoît Payan, dit vouloir ouvrir une nouvelle ère, celle d'une collaboration avec l'État comme partenaire et non comme financeur.
En 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait déjà présenté un plan global pour Marseille. Celui d'Emmanuel Macron sera détaillé demain après-midi. Le Premier ministre, de son côté, reçoit les partenaires sociaux en tête-à-tête pour prendre la température sur des sujets sensibles, comme celui de la réforme des retraites ou de l'assurance chômage que le gouvernement veut appliquer dans un mois, au 1er octobre. Au chapitre encore des nouveautés de ce 1er septembre, l'entrée en vigueur de l'accord sur le télétravail des fonctionnaires et l'augmentation du prix du gaz, plus 8,7%. Voilà de quoi discuter pour les écologistes. L'événement politique dimanche sera le débat sur France Inter des 5 candidats à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Premier tour de vote mi-septembre, mais d'ici là, il faut attirer des électeurs, car pour l'instant, les inscriptions, plus de 30 000, progressent très doucement, Yael Gauz.
5 000 votants au premier tour en 2006, 25 000 en 2011, 12 000 en 2016. Les primaires écolos n'ont jamais vraiment soulevé les foules. Le rapport du GIEC et la succession cet été de catastrophes climatiques peuvent-ils changer la donne? Le patron d'Europe Écologie Les Verts en est convaincu, mais Julien Bayou refuse de se fixer un objectif de participation.
Bah écoutez, les inscriptions ferment au 12 septembre. Donc c'est un peu comme si vous me demandiez de commenter la participation des bureaux de vote avant qu'ils ouvrent. L'enjeu, ce n'est pas forcément le nombre à l'instant T, c'est de proposer un choix démocratique. Nous sommes les seuls à le proposer.
Des débats bienveillants, nous dit-on. Ça, c'est une vraie nouveauté chez les Verts, insiste Noël Mamère. Seul écolo à avoir franchi la barre des 5% à la présidentielle, c'était en 2002. Il soutiendra le vainqueur, mais sans se faire trop d'illusions.
Je sens un frémissement pour cette primaire, mais elle restera de toute façon limitée. Le parti écologiste ne correspond plus au poids des écologistes dans la société. Donc, il aurait fallu trouver une formule plus ouverte, un peu comme ce que propose la primaire populaire.
C'est l'autre primaire à gauche, lancée au printemps avec 75 000 inscrits au compteur pour une candidature unique. Chez ELV, on réfute toute concurrence, mais plus il y aura de votants et plus le vainqueur sera en position de force face aux autres prétendants, déclarés ou non, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, bientôt Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo.
Et le débat des 5 candidats, Éric Piolle, Sandrine Rousseau, Delphine Bateau, Yannick Jeannot, Jean-Marc Governatori, c'est dimanche en direct de midi à 13h30 sur France Inter. À 93 ans, Jean-Marie Le Pen doit être jugé cet après-midi pour provocation à la haine antisémite. La suite de ses propos sur Patrick Bruel et la fournée d'artistes prononcée dans une vidéo diffusée sur le site du Front National en 2014.
Il est 7h09, 24 heures après le départ des derniers soldats américains d'Afghanistan. Le discours de Joe Biden était attendu.
Le président américain s'est exprimé hier soir un ton ferme, haussant la voix pour dire que c'était une décision bonne, sage, la meilleure pour l'Amérique, vous l'entendrez à 7h30. Les États-Unis vont désormais regarder dans les prochains jours ce que les talibans feront à l'aéroport de Kaboul. Benjamin Ely, à quoi pourrait ressembler ce nouveau pouvoir?
Les talibans sont aux commandes, la guerre est gagnée, il faut gouverner. Gouverner l'un des pays les plus pauvres du monde, une économie à l'arrêt, sans oublier la menace que fait peser Daesh, un pays isolé avec à court terme un problème très concret, un aéroport international qu'il faut relancer. Mais le premier défi à relever est en interne. interne, se mettre d'accord. Qui sera l'homme fort? Le Mollah Hibatullah Akhundzada a été nommé à la tête des talibans en mai 2016, mais il reste en retrait. Il n'a pas été vu depuis la prise de pouvoir, beaucoup plus discret que le Mollah Baradar, cofondateur des talibans avec le Mollah Omar, chef du bureau politique basé au Qatar. Il a conduit les négociations de Doha aboutissant au retrait des Américains. Il défend l'ouverture à d'autres courants, l'idée d'un gouvernement inclusif. Des contacts ont été établis d'ailleurs avec l'ancien président Hamid Karzai. Il y a enfin l'influent Sirajuddin Haqqani, chef d'un puissant réseau taliban portant son nom, implanté dans les zones montagneuses de l'Est, un réseau de combattants connu pour ses attaques parmi les plus violentes menées en Afghanistan ces dernières années.
Et le Royaume-Uni dit de son côté avoir ouvert des discussions avec les talibans à Doha pour permettre le libre passage de ses ressortissants. C'est le premier point d'entrée des migrants dans l'Hexagone. Mayotte, le gouvernement veut y introduire une nouvelle entorse au droit du sol. Il ne faudra plus 3 mois, mais 1 an de présence de l'un des deux parents à Mayotte pour qu'un enfant soit français. Le but, Béatrice Duguay, décourager les Comoriens voisins.
Rendre le territoire mahorais moins attractif à la nationalité française et aux minima sociaux, c'est le credo de Gérald Darmanin. Affichage, estime Baptiste Fillou, il est délégué départemental du Secours catholique Caritas à Mayotte.
Il faut savoir que la maternité de Mayotte a été déterritorialisée, c'est-à-dire que quand on est à Mayotte, on n'est pas sur le sol français.
Qui plus est, depuis 3 ans déjà, l'un des deux parents doit justifier de plus de 3 mois de présence sur l'île pour que l'enfant puisse accéder à la nationalité à ses 18 ans. Le sénateur Larem Tani Mohamed Swali est à l'origine de cette mesure. Encore faut-il, dit-il, la faire connaître, comme l'a préconisé le Conseil d'État en la validant.
Depuis 2018, maintenant que la disposition s'applique, vous avez plein de gens à Mayotte qui découvrent la chose. Il faudrait faire cette campagne de sensibilisation et ensuite durcir le dispositif si celle-ci n'était pas efficace.
Chaque année, près de 10 000 bébés naissent à la maternité de Mamoudzou. Les 2/3 des mamans viennent des Comores voisines dans des bateaux de fortune au péril de leur vie et pas forcément avec l'idée que les enfants seront français.
On essaie d'abord de sauver sa peau et, s'agissant d'une maternité à venir, de sauver la peau de l'enfant à naître. Donc non, ça n'encourage pas et ça ne décourage pas non plus quand on connaît l'information.
30 000 reconduites à la frontière en 2019. Autant de retours par la mer, constatent les ONG.
Et le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres avant fin janvier. Allez, on avait suivi le suspense Mbappé. Eh bien, on a eu la surprise Griezmann voilà. Au bout de la nuit et du mercato. Le joueur retourne en prêt à l'Atlético Madrid qu'il avait quitté avec fracas en 2019 pour Barcelone. Alexandre Berthaud.
Griezmann ne serait pas Grisou sans l'Atlético Madrid. C'est là-bas qu'il est devenu, entre 2014 et 2019, un joueur majeur sur la scène mondiale. Un club dont l'identité colle parfaitement à la sienne. De l'envie, du dévouement pour le collectif, de l'intelligence. Griezmann avait quitté l'Atleti pour le Barça il y a 2 ans après de longues tergiversations. Mais l'aventure dans ce club historique n'a pas été l'apothéose que le joueur espérait pour sa carrière. Il a parfois été remplaçant, irrégulier. Alors certes, il a inscrit 35 buts en 2 ans, mais le club n'a pas gagné de championnat ni de Ligue des Champions. Surtout, aujourd'hui, le FC Barcelone est criblé de dettes. Il a dû céder Messi à Paris. Il se déleste maintenant du salaire de Griezmann, un des plus importants du club. Il part donc à l'Atlético en près d'un an avec une option d'achat estimée à 40 millions d'euros, 3 fois moins que ce que le Barça avait payé pour son transfert en 2019.
Et Mbappé reste lui au PSG. Eux n'arrêtent plus de briller, les paracyclistes. Français à Tokyo, Florent Joigny, nouveau champion paralympique de la course en ligne avec son vélo à main après le bronze hier. 4e médaille d'or française en paracyclisme.
Eh bien bravo et merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, c'est le 3e épisode de notre série de Zoom consacrée, vous le savez, cette semaine aux attentats du 13 novembre.